19h-20h. Les informés.
Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Avec Adil Farkan.
Vous êtes des enfants de bourgeois.
Sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la fin de cette semaine. On est vendredi et qui dit vendredi, eh bien on va tenter de clore cette belle fin de semaine. Au sommaire, ce que je vous propose tout de suite pour démarrer les informés durant une heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et à 20h au menu. Au sommaire, eh bien je vous ai concocté deux belles choses. D'abord l'interview consacrée d'un ancien journaliste ici même de Beurre FM, il s'appelle Abdelkrim Branine. Il a écrit son tout dernier roman qui raconte l'histoire d'un enfant de l'immigration concernant autour de l'univers du football, le petit Sultan. On tentera d'en savoir un peu plus tout à l'heure. C'est avec lui, donc, Abdelkrim Branine. Ensuite, vous le savez, et bien, comme chaque soir, nous allons commenter, analyser et décrypter l'actualité. Exceptionnellement, ils seront quatre débatteurs influenceurs. David Maître, que dis-je, Clochette. Maître David Lévesquide qui sera avec nous pour commenter l'actualité avec un rude, celui qu'on surnomme d'ores et déjà l'électron libre, le syndicaliste CGT, Jimmy Dalidou. Et ensuite, un tout nouveau parmi nous, c'est Gonzalez, qui nous vient tout droit de l'Ukraine, du Maroc, du Maghreb. Bref, je lui poserai la question, je ne sais même plus d'où il vient. Voilà, Clochette. Voilà, c'est Aubin Gonzalez qui est un entrepreneur et celui qui commente l'actualité de façon diplomatique. Hein, c'est le petit diplomate. Il y a le diplomate, mais le petit diplomate, Amit Shrigetz. Allez, trois sujets qui ont retenu notre attention. Tout de suite, la guerre en Ukraine. On va démarrer avec ce sujet juste après notre invité. Avec la seule question, finalement, que veut Vladimir Poutine? Veut-il nous embarquer, tout simplement, vers un nouvel ordre mondial? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Ensuite, il y en a un qui monte dans les sondages. Il n'arrête plus et on ne peut plus le freiner. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il a la cote dans les quartiers populaires. Et bien, on va aussi analyser, décrypter et mieux comprendre le phénomène, parce que c'est comme ça que je l'appelle, le phénomène Mélenchon. Ensuite Macron, qui perd 2 points. Que se passe-t-il, Emmanuel Macron? Bah, attendez, vous rigolez. Je ne plaisante pas. Certains prédisent que le scénario probable, Jean-Luc Mélenchon, dès le premier tour, avec Marine Le Pen. Ça vient de Suisse, figurez-vous. Fake news ou info, j'en sais rien. En tout cas, on va en parler. C'est parti, les informés, c'est tout de suite en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Interview, c'est avec un ancien journaliste, un ancien confrère ici même, que vous connaissez d'ailleurs sous notre antenne, il s'appelle Abdelkrim Branine. Bonsoir Abdelkrim Branine.
Bonsoir à tous.
Comment ça va? Ça vous fait quelque chose de revenir sur les ondes de Beurre FM? Ça doit forcément vous faire quelque chose, Abdelkrim Branine.
Bah, ça fait un effet bizarre d'être dans cette position de l'interviewer, de l'inviter, surtout les informés.
Surtout les informés, surtout. C'est vrai, ça vous évoque quoi, mon cher Abdelkrim Branine?
Bah, les informés, c'est que des bons souvenirs, hein, puisque avec ma collègue Delphine Thébault, on avait décidé de créer cette émission il y a une dizaine d'années. Voilà, on a pris un plaisir pendant plusieurs années à commenter l'actualité.
Ça vous manque pas, non?
Ça va.
Ça va.
Bon, en tout cas,
ça vous démange.
Je le sens.
Oui, ça vous démange. Voilà, ça vous démange.
En tout cas, je suis content que ce soit toi, Adil, qui présente cette émission parce que je t'apprécie, franchement.
Je suis content. C'est réciproque. Merci infiniment. Et c'est réciproque. Tu le sais, hein, Abdelkrim Branine. Alors, on va se tutoyer parce qu'on est confrères, d'abord. Le Petit Sultan, c'est ton dernier roman. Le dernier roman, comment il est né? Parce que c'est vrai que ça raconte l'histoire d'un enfant issu du monde footballistique, issu de l'immigration. On va en parler parce qu'il y a plein de passages, moi, qui ont retenu mon attention. Comment est née cette aventure?
Alors, c'est né, en fait, j'avais envie d'un côté...
Zélig, hein, j'ai oublié de le dire.
Zélig, c'est ce que j'ai dit. Ouais, elle est née, en fait, de mon envie de... d'exploiter, entre guillemets, le côté romanesque du football, parce que je trouve que c'est vrai que c'est un thème qui se prête à la littérature. Et ensuite, j'avais envie de parler de ces problèmes d'intégration, d'identité, de patriotisme, etc. Donc, en mixant entre guillemets les deux, j'en suis arrivé à créer ce personnage du Gerten Mokrani, français d'ascendance algérienne, qui est dans une quête identitaire. Il est amené il a annoncé comme le futur espoir du football français, il fait une bêtise et puis il est tout de suite mis à l'écart et là il commence à se poser des questions, est-ce qu'il est vraiment français, est-ce qu'il est algérien, est-ce qu'il est les deux, est-ce qu'il est ni l'un ni l'autre, voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est né.
Et pourquoi alors raconter votre roman autour du football ? C'est vrai !
Le football, on le dit souvent, tu sais, les sociologues notamment, que c'est souvent un miroir grossissant des problèmes de la société. Et si on regarde ça un petit peu plus près, souvent, certains problèmes sont apparus dans le monde du football avant d'exploser dans la sphère publique. Bon, je parle bien entendu des questions de laïcité, je sais pas si tu te souviens, chanter la Marseillaise ou non, le halal, toutes ces questions un petit peu sensibles, voire même taboues. À chaque fois, on voit que ça apparaît dans le milieu du football, donc je me disais qu'en toile de fond, ce serait intéressant de mettre le... Alors, c'est pas un livre sur le football, oui. C'est vraiment la toile
non,
de
non,
fond.
Non, c'est pas un livre sur le football,
prétexte,
c'est vrai.
Voilà. Et c'est un prétexte, en fait, pour évoquer toutes ces questions qui sont plus que jamais d'actualité à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.
Absolument. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Karim Benzema, à Kylian Mbappé, à toutes ces stars du football qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, des modèles, mais aussi l'exemplarité. Est-ce qu'ils les incarnent, selon vous, Abdelkrim Branine?
En tout cas, t'as mis le doigt sur les deux noms qui m'ont principalement inspiré. Karim Benzema m'a beaucoup inspiré à travers pendant sa mise à l'écart de l'équipe de France, toute la campagne très violente. Tu t'en souviens qu'il avait subi en lien avec l'affaire de la sextape. Donc il était passé du statut de chouchou des Bleus, chouchou de la France, à celui de paria. Et c'est vrai que cette volte-face était très violente et c'est ce que j'ai voulu raconter dans le livre avec ce personnage. Et Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait au fur et à mesure que moi j'écrivais le livre, le phénomène Kylian Mbappé est né et a explosé. Et en fait, j'ai été en quelque sorte pris de court par un personnage en fait qui ressemble beaucoup à Kylian Mbappé. Donc là, je l'ai déjà dit dans une interview il y a quelques jours, la fiction est venue, la réalité est venue rejoindre la fiction. Voilà.
Alors justement, parlons de certains passages, passe 19, parce qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont interpellé. Il faudrait presque, Abdelkrim Branine, prendre une heure pour parler de votre livre, de votre roman. Il est passionnant, d'abord bravo. Parce que vous l'avez, il est bien écrit, bien raconté. Comment dirais-je ? Vous amenez bien d'ailleurs les différents épisodes. Il y a une belle accroche. Alors il y en a une qui m'a interpellé tout de suite. On va mettre les choses dans le bain parce que quand on parle d'immigration, on ne peut pas s'empêcher. Page 19. Ma mère refusait ce qu'elle appelait, par exemple, les prénoms boulets, trop risqué à une époque où les Arabes ont supplanté les nazis et les Russes dans les films d'action. De son côté, mon père s'interdisait un prénom occidental. Il redoutait d'entendre qu'il reniait ses racines. Mettons les pieds dans le plat. Est-ce qu'aujourd'hui, en pleine campagne, vous l'avez dit, présidentielle, où Zemmour nous renvoie à cette assimilation, il faut occidentaliser son prénom. Est-ce que c'était aussi en quelque sorte d'amener les choses dans votre ouvrage, interpeller justement ceux qui vous lisent ?
Oui, oui. Oui, en fait, je pense que souvent les Français issus de l'immigration essayent de trouver un équilibre, c'est-à-dire entre leurs origines auxquelles ils ont envie de rendre hommage et entre guillemets s'intégrer et un petit peu alors j'aime pas trop ce mot-là, mais s'assimiler à la société française. Donc souvent, c'est vrai qu'on essaye de trouver un prénom qui fait pas trop.
Et c'est très à la mode, faut dire la vérité.
Oui, exactement. Voilà. Alors je vais pas citer de prénom pour les stigmatiser, mais voilà, on essaye de trouver un prénom un peu passe-partout qui est en même temps prénom maghrébin ou subsaharien, musulman, un peu comme ça. Donc voilà, souvent on voit émerger un peu des prénoms très modernes qu'on n'avait pas nous à notre époque. Hein. Voilà, je m'appelle Abdelkrim, toi tu t'appelles Adil. Il y en aura peut-être d'autres, hein. Mais c'est vrai que c'est des prénoms un peu, alors, je ne vais pas dire fashion, mais un petit peu plus moderne. Et ça alors, finalement, c'est le principe de l'équilibre un petit peu, voilà, entre les origines et la France. Quoi.
L'origine de la France, finalement, est-ce que ça peut régler, justement, je parle à la jeune génération, elle vous écoute notamment aussi, hein, Abdelkrim Branine. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, quand encore une fois, je vous renvoie à cette campagne présidentielle où il est question de parler d'immigration, d'islam, en permanence, vous le savez. On parle aussi des prénoms qu'il faut occidentaliser. Je vous l'apprends pas, Abdelkrim Branine. Est-ce que la culture du sport, le sport, c'est peut-être une des voies, une des solutions qui peut-être nous sortir de ce marasme?
Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a certains sportifs issus de quartiers populaires ou héritiers de l'immigration qui ont aujourd'hui, en tout cas qui potentiellement ont un poids très important Et alors, moi, j'appelle personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Mais je pense qu'en effet, ils peuvent jouer un rôle intéressant là-dessus. Encore une fois, Kylian Mbappé, m'a complètement bluffé, m'a complètement surpris. Tu as entendu certainement parler de ce qui s'est passé là en équipe de France. Donc, il a refusé d'associer son nom à certaines marques qui, d'un point de vue éthique, il ne se sent pas en phase avec ces marques. Je pense notamment aux histoires de paris sportifs qui font un véritable carnage, mais vraiment un carnage dans les quartiers. Et ça, c'est quelque chose de quasiment complètement inédit, parce qu'on sent que Kylian Mbappé, quelqu'un qui est très structuré, son entourage est solide, il est encore très jeune, mais il sait exactement ce qu'il veut, il est en train un petit peu d'imposer ses propres règles, et ça surprend, parce que d'habitude, on a plus affaire à des gens qui viennent en effet de milieux modestes et qui acceptent un petit peu tout, parce que évidemment, au bout, il y a des histoires de sponsors, de contrats, d'argent, etc. Et Kylian Mbappé un petit peu redistribue un petit peu les cartes et il impose ses propres règles. Donc ça, c'est un exemple vraiment de quelqu'un, moi je suis persuadé, qui fait peur quelque part avec le poids politique qu'il peut incarner, Kylian Mbappé.
Absolument. Et vous aviez fait une déclaration, Abdelkrim Branine, Benzema était presque devenu le symbole de l'anti-France. Pourquoi vous dites cela?
Alors, ça, en fait, si on se replonge...
Et en même temps, je vous pose la question, parce que dans votre ouvrage, passe 5 ans, vous dites, sur CNews, j'apprenais ainsi l'existence de la nouvelle porte-parole des Républicains qui interrompait tous ces contradicteurs. Et un peu plus loin, vous dites, d'un vocabulaire d'une trentaine de mots, dont République, laïcité, islamisme.
Benzema,
ça renvoie à votre déclaration.
Ouais, Benzema, on a inventé quelque part un Benzema qui n'existait pas. On a inventé un Benzema qui soi-disant n'aimait pas la France, tu te souviens de la polémique, qui aurait craché pendant la Marseillaise. Alors que c'est un truc que les sportifs font malheureusement parfois quand ils entrent sur le terrain. C'était pas pour cracher sur la Marseillaise, sur la France. On avait inventé, donc il a été pris en grippe par la fachosphère et ils ont inventé des choses même Nasina. Souvent, si tu te rappelles, on citait le scandale de Nasina. On disait vous rappelez Benzema, alors que Benzema n'était pas à la Coupe du Monde justement. Il n'a pas participé au scandale de Nasina. Donc on a inventé une espèce de Benzema anti-France comme ça, anti-français. Il est devenu un peu le symbole de l'anti-France, de ce Français héritier de l'immigration, complètement ingrat. La France l'a fait roi, donc il devrait ramper comme ça. Non, moi je pense que Benzema, il l'a prouvé à plusieurs reprises. D'ailleurs, si on prend par exemple la question, tu te souviens des impôts, c'est l'un des seuls sportifs français qui paye ses impôts en France alors qu'il pourrait bénéficier de quelque chose de beaucoup plus intéressant en payant ses impôts en Espagne. Lui, il a décidé de payer ses impôts en France. Je pense que c'est un symbole fort en tant que Français.
Un échange, parce qu'on sent bien quand même qu'ils sont tiraillés, vos personnages dans votre ouvrage quand même. Hein. Je prends l'exemple, page 51, et il y a un échange. Donc les flics peuvent flinguer un noir et on ne doit rien dire. Et répond l'autre, arrête de te prendre pour Malcolm X, reste à ta place et fais ta carrière, basta. Qu'est-ce que vous voulez nous livrer comme message, justement, quand on voit tout cet échange, y compris avec la Fédération française de football?
Alors ça, en fait, donc le personnage prend position concernant une bavure policière. Enfin, il y a un jeune d'un quartier d'origine subsaharienne qui se fait tuer par la police dans des circonstances dramatiques et qui demeure encore flou. Donc lui, il décide de prendre position. Alors là, c'est son agent qui lui dit arrête de te prendre pour Malcolm X, parce que son agent, il pense contrat, il pense image, donc il lui dit arrête, c'est pas pour toi. Et c'est comme ça aussi la rupture se fait, notamment avec la Fédération française de football et qu'il est mis à l'écart. Donc voilà, il est tiraillé, il a envie de prendre position, mais en même temps on lui dit que c'est pas son rôle. Et c'est comme ça que lui-même il décide en tout cas d'imposer ses règles. Mais lorsqu'on lui demande de s'excuser, il refuse, il en paye le prix fort, mais ensuite il va se construire avec une autre équipe.
Rapidement avant de lancer la pub, parce qu'on arrive au terme de cette interview. Dernière question, page 206. Ah là, ça m'interpelle, Abdelkrim Branine. Vous dites, une investigation menée par Mediapart avait révélé l'existence d'un fichage ethno-racial dans leur centre de formation. Des indications telles que Africains, Antillais, Maghrébins et Français sous-entendus blancs étaient annotés sur les dossiers de jeunes recrues potentiels. Mais ça, c'est une réalité, Abdelkrim Branine.
Bien sûr.
Ça avait fait scandale.
En fait, le livre reprend des éléments de la réalité, ces éléments en font partie. J'imagine que normalement, je trouve qu'ils auraient dû prendre une toute autre dimension. C'est un pur scandale, ces histoires de côté ethnique. Et je trouve que c'est un peu vite passé à la trappe. On a un peu réglé l'affaire gentiment. Et c'est pas normal, voilà, tout simplement.
Bel ouvrage, beau roman. Je l'invite vraiment tous nos auditeurs à aller se le procurer. Excellent, parce que vous racontez les talents de footballeur, vous racontez de l'immigration, vous racontez évidemment la torture, tiraillée entre deux mondes, les origines, mais aussi également cette notion de France. Et puis aussi, peut-être, je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, Abdelkrim Branine?
Déjà, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur l'ouvrage, toutes les thématiques qu'il aborde, le plus simple, c'est évidemment de se le procurer. On peut le commander un petit peu partout, on peut l'acheter à la Fnac, etc. C'est un travail sur plusieurs années, vraiment. Moi, c'est une démarche intellectuelle, une démarche personnelle que j'ai réalisée avec ce livre. On a quelques jours, je suppose que vous allez en parler ce soir. Non, vous allez en parler puisque j'ai entendu le programme, d'une élection. J'ai juste envie de dire aux auditeurs, les gens qui vont voter, ne vous laissez pas entraîner dans ces débats qu'on nous impose. Les toujours les mêmes, l'histoire, l'immigration, la remigration, etc. Il faut refuser ces débats. Il faut imposer des vrais débats, le pouvoir d'achat, la position de la France avec l'Union européenne, la position de la France dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les vrais débats, et refuser toutes ces thématiques qui nous sont quasiment imposées par l'extrême droite.
Le petit sultan, allez-vous le procurer très vite? C'est de Abdelkrim Branine aux éditions Zellige. Merci et bravo Abdelkrim Branine, et j'ai envie de vous dire au plaisir.
Merci beaucoup Adil, et merci, un grand bonjour aux auditeurs et à tes invités, et je te dis à très bientôt sur BFM.
À très bientôt, merci Abdelkrim Branine, et allez vite vous le procurer, je vous le dis vraiment, c'est un bel ouvrage, un beau roman, Le Petit Sultan. Pub et on se retrouve avec les débatteurs, à tout de suite.
Alors on se retrouve dans un instant avec les informés pour le Zap des Infos, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h20, en direct, en live, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face. Et le face-à-face, vous le savez, c'est avec les débatteurs influenceurs. Maître Libenski, bonjour.
Bonsoir.
Quel plaisir de vous retrouver. Ça y est, vous êtes installé, vous, tous les vendredis, vous êtes là.
Oui, ça va.
Vous êtes chez vous, là.
Ouais, j'ai même... Voilà, il y a mon nom là sur mon siège.
J'ai vu, le mec il a squatté son siège, hein, direct, un son à clochette. Hein.
Ouais.
Jimmy il a changé de siège là où vous
avez
fait.
Il m'a volé mon siège.
Vous êtes fait carotter. Non, vous êtes fait carotter par Robin.
Ouais.
Le petit nouveau, il vient, il vous chasse. Non, mais Jimmy se fait chasser par les nouveaux, lui.
Non, mais ça va, il est à l'extrême gauche donc.
Ah oui, c'est ça. Bravo! Ils sont chauds.
Mais t'inquiète.
Ça va, Jimmy Dalidou?
Je suis bien placé à l'extrême gauche.
Ça va. Je suis bien placé à l'extrême gauche.
Bah oui, notre ami marxiste. Il est passé à l'extrême gauche, c'est normal.
Amit Triette, bonjour, comment ça va?
Vous avez remarqué que moi j'ai toujours ma bonne place ici.
Oui, c'est vrai, vous la lâchez pas.
En tant que les diplomates,
c'est pas vrai en plus.
Voilà. Un tout nouveau parmi nous, c'est Aubin.
Bonsoir.
Aubin Gonzalez, comment ça va?
Très bien, merci beaucoup pour votre accueil.
Tout droit de Casablanca. Hein.
Tout droit de Casablanca et de Bruxelles.
Et de Bruxelles aussi, absolument. Bienvenue.
Merci bien.
Entrepreneur,
oui.
Business.
I don't know.
Ah, je vois ça. Allez messieurs, nous allons tout de suite faire le commentaire de trois sujets d'actualité. Vous savez, il y en a un qui s'appelle Maurice Gourdeau-Montagne qui a dit « La Russie a un plan global pour le monde ». Il analyse les choses comme ça. Amine Triet, il veut dire quoi par là? C'est-à-dire qu'il a un plan vraiment en faisant la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il va installer un nouvel ordre mondial?
Écoutez, chaque État a son propre agenda diplomatique et géopolitique. La Russie est un État aujourd'hui émergent qui fait partie, bien évidemment, du bloc géopolitique. C'est un État aussi qui fait partie des 30 économies mondiales. C'est un État qui a des relations avec tous les pays, notamment avec l'Occident. C'est un État qui fait partie de l'Asie et de l'Europe. Et donc, par conséquent, la Russie défend son propre agenda, comme la France, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme la Chine. Je crois, et qui veut dire par là, que la Russie, effectivement, défend son agenda. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir créer des dynamiques au niveau géopolitique et ne pas simplement, je dirais, se focaliser sur la Russie ou sur l'Union européenne ou sur la Chine, ne pas créer des rivalités, des tensions qui seront belligérantes. Il va falloir aujourd'hui développer un dialogue diplomatique entre les États et arrêter, si vous voulez, de fructifier toujours des tensions géopolitiques. Notamment, on le voit avec la Chine, on le voit aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine. La Russie, effectivement,
Sauf qu'en même temps, il y a Joe Biden là qui va. Joe Biden.
On a suivi le sommet à l'OTAN.
Organise un déplacement en Europe.
Oui.
Est-ce que ça sous-entend clairement que là, il veut faire face front à Vladimir Poutine?
Écoutez, aujourd'hui, effectivement, on voit très bien qu'il y a des tensions. Personne ne souhaite une troisième guerre mondiale. La Russie détient l'arme atomique, l'arme nucléaire. Par conséquent, la seule voie crédible aujourd'hui, la seule voie crédible, c'est le dialogue, c'est la voie diplomatique.
Eh ben, Jimmy Dalidou,
et personne ne souhaite aujourd'hui une guerre. Ceux qui vous diront qu'ils souhaitent une guerre, une troisième guerre mondiale, ou entrer en conflit direct avec la Russie, sont des fossoyeurs. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, le président Emmanuel Macron, lors de sa conférence, ou le Joe Biden, a dit clairement, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous aidons la résistance ukrainienne.
Alors, c'est peut-être la conquête.
Attendez.
C'est peut-être la conquête. Attendez, on va distribuer la parole. Jimmy Dalidou. On fait le tour, on fait un tour de table. Jimmy Dalidou, et ensuite, après, mettre David Lebinski.
Évidemment, par rapport à ce que tu disais, Hamid, personne ne souhaite la guerre. Moi aussi, je ne la souhaite pas, évidemment.
Merci.
Mais j'apporterai un peu plus de précision concernant ce que tu disais sur le fait que la Russie est un État émergent. Moi, je dirais un pays impérialiste en voie de renforcement. C'est plus juste. Il y a deux choses. Il y a une contradiction actuellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire un conflit, hein, conflit entre deux opposés. Contradiction entre, d'un côté, la Russie qui est intégrée dans les BRICS, hein, BRICS, etc., avec leur propre rapport économique. Hein, on parle notamment de l'OCS, les accords, l'organisation de la coopération de Shanghai, etc., etc., le pétro-yuan, etc. Je sais pas si vous avez eu, mais Poutine a dit maintenant on achète mes barils de pétrole en rouble. C'est pas pour rien qu'il a dit
ça.
C'est pas pour faire joli dans le paysage.
Il l'a dit.
Non, alors juste, je finirai sur la contradiction.
C'est ça qu'il est capable de
donc,
faire.
Donc en fait,
attention.
La contradiction qui se passe, c'est la contradiction entre le nouveau et l'ancien. C'est ça qu'il faut voir. En fait, la France, l'Allemagne et les différents pays d'Europe, la France et l'Allemagne sont des pays impérialistes, des vieux pays impérialistes qui détiennent de vieilles colonies. Il y a deux choses qui les sauvent. L'expérience de la violence et l'expérience dans la gestion du capital. C'est les deux choses qui les sauvent. Mais ils sont face à ce pays en voie de renforcement.
Mais qu'est-ce qu'ils cherchent, Vladimir Poutine, en ce moment? Ils cherchent quoi? Ils cherchent une nouvelle reconquête? Ils cherchent à reconquérir le monde d'une autre manière? Ils veulent redessiner la géopolitique? C'est ça ma question. Vous répondez. Il n'y en a aucun qui répond à la question pour le moment.
Ce qu'il veut, c'est. Non, mais c'est simple. Ce qu'il veut, c'est pour renforcer l'impérialisme, il a besoin de développer ses capitaux, ce qu'on appelle la rotation du capital, d'exporter ses capitaux et d'étendre la sphère économique russe, la sphère économique de ce continent européen.
Et l'axe chinois,
il a besoin de l'exporter à travers le monde.
Maître David Lebinski. Maître David Lebinski.
Un obstacle qui est l'Union européenne.
Alors, plusieurs éléments. Alors déjà, il existe, disons, trois formes d'impérialisme. On a eu l'impérialisme européen avec les colonies. On a eu l'impérialisme américain avec sa sphère d'influence sur les pays sud-américains. Et on oublie souvent qu'il y a toujours eu un impérialisme russe dans toute l'histoire. L'Ukraine, en fin de compte, elle est indépendante depuis 1991. Mais avant 1991, c'était la République populaire d'Ukraine, donc depuis 1920. Et avant 1920, le territoire ukrainien était en fait disputé par les Russes et par l'Empire ottoman. Alors, quelle visée, en fait, à Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, c'est un homme, en fait, de l'URSS. Il a vécu, en fait, une bonne partie de sa vie sous le joug de l'URSS. Il a succédé à Boris Yeltsin. Et, en fait, c'est dans son état d'esprit, en fin de compte, quoi qu'il arrive, d'accroître un empire qui s'est disloqué. On le rappelle, hein, l'URSS s'est disloqué en 1991. Et je pense qu'il y a une forme de revanche, comme il y a eu, en fait, l'Allemagne.
Ah, ben voilà. On commence à mettre les pieds dans le plat.
Je pense qu'il y a une forme de revanche.
Je pense que Vladimir Poutine, à mon avis, veut se venger.
Tout à fait. L'Ukraine.
Il n'est pas très clair sur la question.
Non, il n'est pas clair. Mais
il n'est pas très clair.
Attendez, vous parlez de Poutine comme si c'était, il y avait que lui qui voudrait se venger suite à la chute de l'Union soviétique. C'est une majorité du peuple russe qui veut se venger.
On
verra les tableaux. Les tableaux ont démontré qu'une partie de la Russie, les Russes sont nostalgiques de l'Union soviétique. Et quand il y a eu la dislocation de
l'Union soviétique. Vous allez chercher ça où?
On verra les tableaux.
Alors, moi, je suis assez étonné parce que quand il y a eu la dislocation de l'Union soviétique, apparemment, les peuples étaient d'accord.
On va écouter Aubin Gonzalez, qu'on n'a pas entendu. Aubin Gonzalez.
Oui, il y a un nouvel ordre. Oui, il y a une revanche. J'en veux pour preuve, certains commenceront en vous expliquant cette situation, en opposant régime totalitaire autoritaire d'un côté aux démocraties occidentales. Ça, c'est une première vision, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'aimerais très rapidement brosser deux lectures. La première lecture est globale, et on met les deux pieds dans le plat, puisque oui, il y a un nouvel ordre. Et je dirais même plus, et on ne l'entend pas, il y a une nouvelle proposition.
Qui émane de qui, ce nouvel ordre?
Une nouvelle proposition commerciale
qui émane de qui?
Qui est mise sur la table par les Chinois, par les Arabes, par les Russes.
Quand vous dites les Arabes, c'est qui les Arabes? Pas le Moyen-Orient?
Je vous réponds, si on se concentre sur l'Amérique du Sud et sur l'Afrique, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a la Chine, il y a les Russes qui proposent une nouvelle offre commerciale. Qu'est-ce que c'est ce nouveau business? C'est, on dit aux Africains ou on dit aux Brésiliens, on fait du business avec vous et on ne touche pas la politique. Et ça, ça leur plaît. Donc il y a cette idée de revanche où les Africains ont un nouveau partenaire.
Mais je ne vous vois pas arriver. Elle émane d'où ce nouvel ordre
parce
mondial
que les, il vient de, ça fait longtemps qu'ils sont partenaires avec l'Afrique.
Il vient de qui précisément?
Ce n'est pas
quoi? C'est l'axe?
Ce n'est pas un consortium de pays ou de personnes. Il y a aussi quelque chose de naturel qui se fait.
Dans le micro,
s'il y a un mouvement naturel qui s'opère. Il y a des contingences économiques et géographiques qui font qu'aujourd'hui, on en arrive à cet état. Et quand on regarde le vote à l'ONU...
Moi, je pense que c'est des contingences politiques.
Des contingences politiques et économiques.
Parce qu'il ne faut pas oublier que l'URSS...
Alors, il installe le débat, c'est vrai. Hein.
Le Maroc et le Sénégal, par exemple, des partenaires historiques de la France, sont neutres. Alors, comment est-ce qu'on peut lire ça? Deux lectures. Un, ils vont nous dire...
Je vais distribuer la parole.
On peut comprendre, nos enfants se sont battus pour vous en 40-45, on ne se mêlera pas du conflit en Europe. Première lecture, elle est un peu biaisée. Deuxième lecture, c'est on veut de nouveaux partenaires commerciaux. On n'aime pas
les partenaires commerciaux.
Mais les partenaires commerciaux...
Allez-y, Maître Levinsky, ça fait longtemps, ensuite après Amit Chriet.
Ça fait longtemps que la Chine, en fait, est impliquée en Afrique. Hein. Elle a un peu remplacé, si j'ose dire... avec toutes les nuances qui s'imposent, la France ou les Européens. Moi, je vois, en fait, alors, je suis pas géopoliticien, mais faut pas oublier, en fin de compte, qu'il y a toujours une alliance sino-russe, hein, puisque, je rappelle, avec l'URSS, il y avait le Parti communiste soviétique et le Parti communiste chinois qui existe encore actuellement. Donc, je pense, enfin, effectivement, certains pays arabes, qui à l'époque étaient un petit peu d'obédience marxiste, hein. Donc, il y a toujours eu cette alliance. Je pense que, s'il faut construire une géopolitique, si j'ose dire, en fait, tu auras l'alliance entre les Russes et les Chinois, qui a toujours existé, et de l'autre côté, l'Occident.
J'ai l'impression que tu vous séparez la sphère économique, politique de la sphère, et la sphère idéologique. Or, ce que je sais, c'est que dans la lutte des classes, et on va appeler un chat à chat dans la lutte des classes, non, mais laisse-moi finir avant de rigoler.
J'ai rien dit.
C'est qu'elle est conditionnée par trois éléments. La lutte, elle est économique, politique et idéologique. Et c'est une erreur de compartimenter ces trois éléments. Donc la lutte des classes en mouvement est conditionnée par ces trois éléments. Alors, et à partir de là, je reviendrai sur ce que disait le camarade tout à l'heure, parce que je suis d'accord avec lui.
Aubin González.
Aubin, je suis d'accord avec ce qu'il disait, c'est qu'il y a effectivement
une contradiction entre... C'est votre camarade? Il est communiste aussi?
Non, mais...
Il y a une contradiction entre deux... Le camarade, entrepreneur communiste, j'en connais pas beaucoup, moi.
Entre deux sphères économiques...
Je connais pas d'entrepreneur communiste encore.
Et en fait, c'est une contradiction entre le nouveau et l'ancien, et certains pays africains ne veulent pas se positionner, restent non alignés, parce qu'ils ont besoin d'avoir de nouveaux accords économiques, de nouveaux rapports avec des pays qui ont cessé de les prendre pour des débiles, en fait. Vous voyez? Parce que l'Union Européenne, c'est un peu ce qui se passe.
Alors,
en fait.
attendez,
s'il vous plaît, Jimmy. Il débarque en Union Européenne, il va arriver de Washington,
qu'il faut faire. Il y a, dans l'ordre, Amit Chriet et Aubin González. Tout de suite, c'est le Quad 9 et je vous redonne la parole. Le Quad 9, c'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Et le Quad 9, c'est avec Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale et éditorialiste dans les médias. Bonsoir, mon cher Michel Taube.
Bonsoir, cher Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Eh bien, on lance, on vous écoute pour le vote Quad 9. Le billet d'humeur, de quoi s'agit-il?
Alors, j'ai beaucoup hésité entre parler de l'Ukraine et parler de l'élection présidentielle, mais mon cœur va aller à l'élection présidentielle.
C'est un très bon choix.
J'aimerais imaginer avec vous quelque chose d'impossible. Que les sondages se trompent complètement. Imaginons.
C'est ce que je disais au sommaire.
Complètement. D'ailleurs, c'est pas totalement absurde, parce qu'il y a un grand journal qui s'appelle Ouest France, qui est même le plus grand quotidien français, qui a décidé depuis maintenant presque 6 mois de ne plus parler des sondages à ses lecteurs. Donc imaginons un instant qu'il n'y ait pas de sondage et qu'on ne sache pas quel va être le résultat du premier tour. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire cet effort? Pas évident.
C'est pas évident.
Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce matin, il y a l'INSEE qui a rendu le résultat, exactement le nombre de Français qui vont pouvoir voter le 10 avril. 48 millions de Français. Et en fait, c'est très intéressant parce que les chiffres montrent que en un an, on a gagné 865 000 électeurs de plus qu'il y a un an. Ce qui est une grosse surprise. une grosse surprise.
Oui.
Il y a plusieurs, il y a près de 200 000 jeunes, on l'oublie souvent, la loi a changé. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 18 ans sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Automatiquement. Et il y a eu 4 millions de déménagements et des personnes qui se sont inscrites entre janvier et mars. Il y a eu un mouvement très, très important. Bref, on a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibles électeurs. Donc, imaginez, premier scénario, que contrairement à ce que disent les sondages, vous ayez un nombre considérable de Français qui aillent voter le 10 avril. Ça, déjà, ça pourrait complètement changer la donne.
Exact.
Et ensuite, moi, je pense qu'il y a deux candidats qui peuvent faire une très, très grosse surprise. Mélenchon et Zemmour.
Alors, je parlais de Mélenchon et Le Pen. Voilà. Premier tour.
Alors, moi, je dis.
C'est le débat de ce soir.
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir deux très grosses surprises. Et pour moi, c'est Zemmour et Mélenchon. Ça ne veut pas dire que je suis pour eux, hein. Ça veut dire que je pense que ça peut être des grosses surprises. Merci. Zemmour, pourquoi? Parce que Zemmour, c'est un vote honteux. Zemmour, c'est un vote honteux. Donc, je pense qu'il y a plein de Français qui cachent leur jeu et qui n'osent pas dire, même au sondage, qu'ils pourraient voter pour lui. Et donc, je pense que, rappelez-vous, en 2002, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors que personne ne s'y attendait. Et moi, je pense que ce vote caché, il peut faire la surprise et surprendre tous les résultats annoncés dans les sondages. Et puis, il y a une deuxième grosse surprise qui peut arriver.
Laquelle ?
Très grosse surprise. C'est Mélenchon. Mmh. Je crois qu'un de vos invités parlait juste avant de la lutte des classes.
Jimmy Dalidou,
c'est moi.
Ça peut être que lui.
C'est notre syndicaliste. La star, voilà. Notre star syndicaliste.
Je salue notre ami syndicaliste. Et bien,
camarade.
Avec l'inflation, la crise énergétique, les conséquences de la crise en Ukraine, la question du pouvoir d'achat est devenue tellement importante que la question sociale est redevenue la grande question de l'élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois, ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois. Donc imaginez que dans les 15 jours qui viennent, il y ait la fin du mois de mars, les fins de mois c'est toujours très très difficile, imaginez qu'il y ait un conflit social qui démarre très fort, que les pêcheurs, les camionneurs se mettent en grève, et qu'il y ait une sorte de boule de neige qui fait que ça pourrait porter le vote pour Mélenchon. Imaginons cette grosse surprise. Bref, mon quoi de neuf docteur, c'était quoi? C'est de dire à nos concitoyens, aux auditeurs de Beurre FM, ne croyez pas les sondages. Choisissez vous-même en votre âme et conscience pour qui vous voulez voter. Allez voter et vous verrez, il y aura des grosses surprises le 10 avril au soir, parce que c'est le peuple français, ce sont les citoyens qui ont le dernier mot, et ce ne sont pas les sondages qui, tous les jours, nous annoncent des résultats courus d'avance. Donc, il peut y avoir beaucoup de participation, il peut y avoir des surprises le 10 avril, et c'est un petit peu, pour appeler à la prise de conscience de chacun, que je me permettais d'envisager ces 3 surprises, une très forte participation, un vote Zemmour important, un vote Mélenchon important, et qui pourrait faire que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont donnés comme étant les 2 finalistes depuis des mois et des mois, seraient les dindons de la farce. Voilà, grosso modo,
bien,
que je voulais partager avec vous.
Vous avez raison de le partager avec nous, et vous avez raison aussi de rappeler à nos auditeurs partout en France qu'il faut absolument accomplir son devoir civique et aller voter. Merci Michel.
C'est un droit, et c'est surtout un devoir.
Droit et un devoir. Merci Michel Thauba, vendredi prochain avec autant de plaisir.
Merci, à très bientôt.
Pub, et on se retrouve tout de suite après avec nos débatteurs.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, Michel Thauba me permet une belle transition. Michel Thauba, que vous retrouvez chaque soir, tous les vendredis, dans le Quoi de Neuf. Les informés, c'est avec Maître David Limeskine, avec Jimmy Dalidou, avec Aubin Gonzalez et enfin avec Amine Chriette. Messieurs, présidentiel, justement, Michel Thauba le rappelait si bien. Alors, les sondages disent qu'il est en hausse, ça on le sait, c'est une réalité, mais surtout ils disent que Mélenchon pourrait-il être le troisième homme. Moi je vous pose la question, est-ce que il peut être le deuxième homme fort de cette élection? C'est-à-dire qu'il pourrait se retrouver face à Macron, à Marine Le Pen, dès le premier tour, Aubin, Gonzalez.
Mélenchon,
ça devient intéressant là.
Mélenchon, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, il a un impact européen, quand vous voyagez en Europe, il est connu, il est reconnu. C'est un tribun, on le sait. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il monte dans les sondages? J'ai envie de dire, c'est comme un bon joueur de foot qui passe de 5 minutes à 20 minutes sur un terrain de football. Il marquera plus de buts. Vous comprendrez, Mélenchon, c'est un bon tribun. S'il parle une heure par semaine, il impacte à une hauteur de 5. S'il parle 10 heures par mois, il impacte beaucoup de plus. Et maintenant que le rouleau compresseur Mélenchon s'est mis en route, il a plus d'impact à cause de ses qualités. Première raison. Deuxième raison, c'est quelqu'un qui est sincère. Et quand vous parlez à différentes générations...
Il a droit à une clochette, lui. Hein.
C'est moi la raison.
Un politique qui est sincère, moi, j'en connais pas. On va plutôt parler de cynisme, plutôt.
Il respire. Il vit dans le pays des merveilles, Aubin. Dans le pays de 30 ans de politique, Mélenchon.
Bah alors dans ce cas-là, certains vous diront que Zemmour est sincère aussi.
Plus que les autres, je parle de perception ici. Sur la perception...
Zemmour vous dirait qu'il est sincère aussi dans sa perception. Le Pen, tiens, elle est sincère aussi.
Dans la perception, même ceux qui voteraient contre Mélenchon...
Dans la perception aussi.
...vous diront qu'il a l'air sincère. Il n'aime pas ses idées, mais quand il est à l'Assemblée nationale, qu'il fait son discours et qu'il est capté par les Français, qu'il est méprisé...
Alors il est au Sénat, hein. il n'est pas à l'Assemblée nationale.
Sur le... Sur
non, il est à l'Assemblée. Maître David Lebescu. Il est député. Ah, il a droit à une triple sonnette, lui. Notre avocat, il est largué, là.
Il faut l'enregistrer, ça.
Alors, tour de table.
Écoutez, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Mélenchon, effectivement, monte dans les sondages. Pourquoi? Pour une très simple raison. Il y a aujourd'hui une dynamique sociale. Mélenchon, aujourd'hui, incarne un programme social et écologique. Il est effectivement aussi novateur à travers ses meetings. On voit bien aussi que le Jean-Luc Mélenchon de 2017 à celui d'aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, il canalise sa parole, il fait beaucoup plus attention sur ce qu'il dit et il a appris de ses erreurs. C'est quelqu'un aussi qui a été sénateur à l'âge de 22 ans, qui a une expérience aussi à la fois politique et qui parle français.
Ah, c'est le diplomate. Hein,
lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, la retraite, c'est 60 ans, Macron, 65 ans ».
Mélenchon, c'est aussi « La République, c'est moi ».
Exactement, ça parle aux gens. Et donc, par conséquent, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les gens? C'est le pouvoir d'achat, c'est d'avoir remplir leur frigo. Ce que vous ne faites pas comme la différence, c'est que, et souvent vous le faites ici, à juste titre, c'est que non, je suis en train de décrire le programme politique de Jean-Luc Mélenchon.
Vous vendez la peau de l'ours avant
je
l'avoir
tué. Je ne suis pas le porte-parole des Insoumis. Vous devez faire la différence, monsieur.
Non, mais il y a trois choses importantes. Te
attendez, j'ai pas terminé. Laissez-le finir.
Vas-y, finis. Alors, allez-y. Je sais que les marxistes ont du mal avec la parole libre, mais voilà, je l'incarne à fort
raison. Allez-y, monsieur le diplomate.
Petite clochette pour lui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon incarne cette gauche à la fois sociale, progressiste et écologique. Et aujourd'hui, ça parle aux Français.
Non, mais
la question
2017,
sociale
c'était
est au cœur
pareil,
du débat.
Hein. C'est exactement
notamment c'est ce que j'ai envie de lui dire. Pour moi, 2017 et 2022, c'est pareil. C'est la même chose. Sauf Jimmy Dalidou. Jimmy Dalidou. Non. Jimmy Dalidou, s'il vous plaît. On se calme. Jimmy Dalidou.
Une chose, c'est que Hollande a été, à l'époque, élu par Mélenchon. Donc, de toute façon, qu'il soit au deuxième tour ou qu'il ne soit pas, il va devenir évidemment un élément clé de cette élection parce qu'au pire des cas, il y a de fortes probabilités qu'il devienne l'arbitre des élections. Parce que même s'il n'est pas au deuxième tour, c'est lui qui va répercuter, il va appeler à répercuter ses voix sur l'un des candidats. Ensuite, moi, ce qui me fait peur par rapport au personnage Mélenchon, je suis d'accord avec toi, Aubin. Je pense qu'il est sincère, mais ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression qu'avec Mélenchon, s'il passait au pouvoir, on se retrouverait dans une version Syriza, mais version française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Actuellement, oui, là, je te rejoins, Hamid, c'est qu'il y a une colère sociale qui grimpe. Le truc, c'est que cette colère sociale, elle espère trouver une porte de sortie politique via les élections. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il, même s'il passait, est-ce qu'il aurait... les mains libres, est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il veut faire pour la simple bonne raison que l'Europe sociale n'existe pas. L'Europe est une dictature du capital à grande échelle. C'est une machine à opprimer.
Il est bon, notre syndicaliste.
Qu'est-ce qu'il va faire, Mélenchon, quand il arrivera devant les... Je vais finir avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Tsipras, on l'a vu, Tsipras, à l'époque, il a été élu.
Non, mais tu
la
peux
première
pas...
chose qu'il,
attends,
a été,
attends.
Qu'il a fait, il a
attends,
été
attends.
Voir les institutions européennes.
Tu peux pas comparer la Grèce et la France.
Maître David Limeski.
Maître
Limeski.
Alors, plusieurs éléments. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, il nous a refait le coup de 2017. Hein, moi, je me rappelle, en fait, à la même période, tout le monde parlait de Jean-Luc Mélenchon, il augmente dans les sondages, etc. Et là, c'est le cas. Mais pourquoi c'est le cas? Parce qu'il a fait un meeting où, apparemment, selon les organisateurs, donc dimanche, le meeting de dimanche, il y avait 100 000 personnes, et parce que c'est un tribun, Mélenchon, faut dire. C'est un des meilleurs orateurs, en fait, de ces dernières années. Après, alors pour en revenir à ce que tu disais, je ne sais plus.
Alors, je parlais de la colère sociale, sociale oui. des classes et qui à un moment
l'Europe sociale.
Oui. N'aura pas les mêmes.
S'il arrive.
Oui, alors voilà. Mais tout à fait. Alors en fin de compte, tu peux pas comparer la Grèce et la France. C'est-à-dire effectivement
dans une Europe.
Quand l'extrême gauche est arrivée au pouvoir en Grèce. En Grèce, pardon. Le premier ministre s'est plié. Voilà, s'est plié aux exigences de l'Union.
Attends, laisse-moi finir.
Laisse-moi finir. Effectivement, la Grèce s'est pliée aux exigences de l'Union européenne. Mais la Grèce, ce n'est pas la France. La Grèce, c'est un petit pays. La France, en fait, elle est moteur avec les Allemands, si j'ose dire, de l'Union européenne. Donc, je pense que si Mélenchon, en fait, arrive au pouvoir,
c'est la France, la
il pourra, avec difficulté, avec difficulté. Oui, non, mais c'est un grand pays, la France. Si la France sort de l'Union européenne,
au niveau national,
si la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Europe. Ah oui. Il y a plus de moteur franco-allemand.
Alors, Amit Friette,
il faut des bases de sortie.
Monsieur,
donc là, on n'est pas dans un meeting, Jimmy. Merci.
Amit, non, mais laissez-le l'exprimer comme il l'entend.
Ah, Amit,
absolument.
Voilà.
Non, mais il a raison. Allez-y, Amit Friette, laissez-le.
On n'était pas dans la musique de la CGT ou CFDT, je crois que c'est la.
Laissez-le exprimer comme il l'entend. Amit Friette.
Ce que je disais donc, je pense que d'abord, sur la question de l'Union européenne, la Grèce n'est pas la France en termes de PIB. La France est la deuxième puissance économique. Si la France sort de l'Union européenne s'écroule. Il y aura une cascade. Plusieurs pays suivront. Premier élément. Deuxième élément.
Il y aura un renforcement de la France si tu sors de l'Union européenne.
Pas terminé.
Ah non, c'est un renforcement.
Bon, là, il a raison.
Laissez-moi terminer.
L'Europe, ce que je suis en train de dire. Et la finance.
Deuxième élément. Aujourd'hui, et je ne sais pas qui a lu le programme de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon prône une sixième République.
Je l'ai lu aussi.
Donc il aura les mains libres. Puisque le but de la 6ème République, c'est justement de faire des référendums nationaux et de créer une constituante. Pour répondre à ton interrogation,
dans ce cas-là, il faudrait qu'il développe sur des conseils démocratiques et populaires qui auront des prérogatives.
C'est ce que propose
un véritable
gouvernement. Moi, je décris le programme politique
de leur avenir, indépendamment d'un gars qui a un mandat.
Façon, si tu faisais un référendum sur l'Europe en France,
les Français ne sont jamais contents. Les Français ne sont jamais contents. On vous propose Macron, vous en voulez pas. Vous ne voulez pas Marine Le Pen. Vous ne voulez pas Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous proposez la CFDT ?
Quel est ton ancrage social ?
Qu'est-ce que vous proposez la
CFDT ? Pop, s'il vous plaît.
Mais Karl Marx, il est mort. Mais voyons,
on va écouter notre entrepreneur. Monsieur Jimmy Dalido.
Ça, c'est la base.
Il y a deux manquements
qui sont criants, à condition qu'on les veuille. Le premier, c'est une Europe sociale. Elle n'existe pas, n'a pas été souhaitée.
Exactement.
Et le deuxième point, c'est une Europe de la défense. Si on la veut, peut-être qu'elle existera. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en raison des crises financières, ça devient criant, ça devient gênant. L'absence de classe sociale moyenne où sa disparition devient une réalité dans dans tous les pays européens.
Elle est déclassée, la classe moyenne. Il a raison.
L'accès au capital, l'accès à l'emprunt, l'accès au travail.
Non, il a raison. Pourquoi vous dites ça? La classe moyenne, elle existe encore. Elle existe encore.
Elle diminue. On ne dit pas qu'elle
disparaît.
On dit qu'elle disparaît.
Elle disparaît, oui.
Si
oui,
elle existe, elle est majoritaire.
J'aimerais qu'on traite un dernier sujet. Vous savez, messieurs, c'est Macron qui perd deux points. Deux points. Le Pen qui, elle, remonte à 19. Mélenchon, on vient d'en parler, qui distance Zemmour. Mais moi, je voudrais simplement faire un coup de projecteur sur Emmanuel Macron. Quand on regarde les sondages, là, il est en train de perdre quelques points. Est-ce que, d'abord, quelle grille de lecture doit-on avoir ? Jimmy Dalton.
Il y a deux choses importantes.
Ah, très important. Ça nous renvoie à ce que disait tout à l'heure Michel Taube.
Déjà, la première chose, il y a un truc qui m'agace. Désolé de parler comme ça, mais il y a un truc qui m'agace et qui consiste à dire que les sondages ont forcément raison.
Non.
Moi, ça me pose un réel problème. Ensuite, dans les sondages, c'est un outil de manipulation des subjectivités.
C'est fabrication de l'opinion.
Ensuite.
Manipulation, je ne sais pas.
Ensuite, moi, ce qui me pose problème, c'est que Macron est un. Mais attendez, c'est un des présidents les plus méprisés de la République française et il serait cautionné de 30% d'intention de vote. Mais moi, c'est une contradiction antagoniste et inconciliable qui reflète une défaillance dans le système, un processus de mensonge, de manipulation mentale. C'est ça que sont les sondages. Et le mec, il est méprisé.
Respectez les électeurs, quand même. Respectez les électeurs.
Il va loin, lui. David Libeskind. Maître Libeskind. On fait un tour de table.
Plusieurs choses. Bon, les sondages, effectivement, concourent à la fabrication de l'opinion, comme les médias. Ensuite, si Emmanuel Macron a baissé, c'est normal. Il s'est présenté comme candidat présidentiel, donc forcément, les sondages ont augmenté, comme ça avait été le cas pour Valérie Pécresse. ensuite comme chef de guerre, donc les sondages ont également augmenté, et ensuite là, la guerre en Ukraine se tasse, etc. Il y a plus de discours d'Emmanuel Macron à la télé, donc les Français se rendent compte que c'est pas forcément le candidat idéal. Donc oui, les sondages baissent, et ils vont encore baisser le concernant, quoi. Après, est-ce que les sondages ont raison?
On verra. Aïe, 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 je sens que cette campagne va battre son plein. Aubin Gonzalez, on vous écoute sur les sondages, sur, s'il vous plaît, Macron et cette campagne qui devient, on peut le dire, hein, qui commence à battre son plein.
Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal et personne n'en a une. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un effet boule de neige en faveur d'Emmanuel Macron en raison du conflit en Ukraine qui lui a donné une pole position dans nos médias. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est à la charge des autres candidats de prendre l'initiative et de ne pas laisser le terrain à Emmanuel Macron. S'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'espace médiatique ou d'espace de parole, c'est à eux de créer le sujet.
Mais long.
Non, ils ont un espace
et
de
long
parole.
L'espace, ils l'ont.
Ils n'ont pas d'idées, ils ont très peu d'idées à part.
Ils l'ont tous maintenant.
Les petits candidats sont boycottés.
Alors oui, Poutou et les autres, oui, c'est vrai.
Oui, les petits candidats.
Amine Triet, rapidement, s'il vous plaît.
Ils l'ont, par contre, à TF1, il y a des candidats.
Il nous reste quand même quelques minutes avant de rendre l'antenne. Si, je vois.
51.
Il y a des candidats qui n'ont pas été invités. Mais je vais aller très rapidement.
Oui, c'est une honte.
Il y a des candidats qui n'ont pas été invités, si vous voulez, à TF1. Et donc, je pense que ça a été très problématique. Mais ce que je peux dire sur Emmanuel Macron, aujourd'hui, Emmanuel Macron a présenté son programme qui se chiffre à 55 milliards. C'est un programme ultralibéral, retraite à 65 ans, conditionner le RSA, etc. Il a un programme, qu'on le critique ou pas.
Il a un programme d'exploitation.
D'accord. Il a un socle électoral aujourd'hui, oui, qui est là. Plusieurs personnalités du Parti Socialiste l'ont rejoint, des grandes personnalités. Plusieurs personnalités de droite l'ont rejoint. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, Emmanuel Macron consolide cet électorat-là. Il a un socle. Et effectivement, il refuse de débattre au premier tour pour effectivement refuser la contradiction. Et donc, c'est une stratégie qu'Emmanuel Macron est en train de mener. Pour l'instant, effectivement, elle porte bien, cette stratégie se porte bien. Et donc, il est en train de la consolider, tout simplement.
Bilal Nenman, est-ce qu'il peut annoncer son programme, Bilal Nenman? Je l'appelle, merci à vous. Merci à Aubin Gonzalez. Vous reviendrez?
Je pensais qu'on avait un peu plus de temps.
Non, c'est l'heure de la pub, là. Hein. Hey, ah, la radio a besoin de vivre. Hein.
Mais oui, d'accord.
Amine Chriette, merci.
Merci beaucoup, monsieur le diplomate.
Exactement. Merci à Maître David.
Merci à
la semaine prochaine.
Ouais.
Jimmy Dalidou.
Merci Adil.
À très bientôt. À la réalisation, c'était Giovanni et Bilal Nenman. Et parmi nous, de 20h à 21h, place au sport. Ah. Au sport. Et c'est Time Sport qui vous donne rendez-vous avec un beau sommaire ce soir à ne pas manquer. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.